Y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Y aura-t-il un bon film parmi ceux dont on va vous parler aujourd'hui ? Bonjour, c'est Cinérama. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Et Manu, tu reviens en force après une absence. 3 films pour toi.
Oui, donc Le Serpent aux mille coupures, un film d'Eric Vallette, Corporate, un film sur le milieu de l'entreprise. Et puis enfin, Prix de cours, un film dont je devais parler la semaine dernière.
Et putain, Marine.
Et puis alors pour moi, eh bien, ça sera Opéra et Marijuana, puisque je vous parlerai du documentaire L'Opéra de Jean-Stéphane Bron et d'une comédie québécoise, Les Mauvaises Herbes.
Et moi, je vous parlerai d'un film qui sort le 12 avril de Young Lady de William Holroyd. C'est le premier film de ce réalisateur britannique. Et puis, j'ai préparé un blind test à l'occasion du film Corporate. Effectivement, on va essayer de découvrir des titres de films qui se déroulent soit au sein de l'entreprise, soit qui ont attrait à l'entreprise. C'est cinéma.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passerait aisément.
Soit je me repose un peu ici avec vous trois. Soit je me repose un peu ici sans vous trois.
Mais sauf que nous, on n'a rien à voir avec vos emmerdes.
Mes emmerdes nous ont rattrapés.
La carrière chaotique d'Eric Vallette est intéressante à bien des égards. Depuis son premier long métrage, je ne sais pas si vous l'avez vu, Maléfique, série B horrifique plutôt réussie, il ne cesse de se chercher, d'essayer de s'imposer comme un artisan du genre, que ce soit en France ou ailleurs. Malheureusement, ses escapades aux États-Unis ne sont pas très glorieuses. Hein. On lui doit un remake aseptisé de La mort en ligne de Takashi Miike et un film fantastique ringard avec une bagnole tueuse super hybride. Bref, non, c'est vrai. Hein. Eric Vallette n'a pas su s'intégrer au système comme par exemple Alexandre Aja et en tirer profit. Alors par contre, sa carrière française est beaucoup plus stimulante. Hein. Une affaire d'État est un excellent thriller politique et La proie, avec Dupontel, hein, une course-poursuite haletante dans la lignée du fugitif. Alors adapté d'un roman de D.O.A., auteur de Polar, qui a pris ce pseudo en référence à un film noir très connu qui s'appelle Dead on Arrival, Le Serpent aux mille coupures s'appuie sur un script alambiqué et prenant malgré de nombreuses failles en fin de parcours. Alors l'action prend place dans le sud-ouest de la France, en pleine campagne profonde. Un motard abat 3 gangsters présumés et blessé quitte les lieux sous l'œil apeuré d'un témoin caché dans les vignes. Alors ce mystérieux fugitif se réfugie chez les petits, famille de fermiers qu'il prend en otage. Mais cette famille est déjà victime de persécutions pour la simple raison que le mari est noir, provoquant la colère, la haine raciale des agriculteurs locaux. Enfin, agriculteurs et puis tous
les chasseurs.
Les chasseurs, bref.
D'accord.
Voilà, ajouté au tableau des barons de la drogue colombiens, le lieutenant-colonel Massé Duréo et un tueur à gages d'élite d'origine asiatique, tous aux trousses de cet étrange tueur sans nom. Alors, il restera anonyme jusqu'à la fin et ses motivations ne seront jamais dévoilées, ce qui en fait une figure un peu abstraite, presque estoudienne, qui renvoie à la mythologie du cinéma américain et particulièrement au western. Alors, cet anti-héros impassible et solitaire est remarquablement interprété par Thomas Sisley, qui avait joué dans Largo Winch, notamment. Alors, face à lui, Pascal Grégory, qui se fait rare, hein, désormais, campe un flic crédible et surtout Terence Yin, comédien hongkongais aperçu chez Johnny To, notamment dans La vie sans principe, incarne un tueur hiératique aux méthodes sadiques particulièrement impressionnantes. Alors son regard tranchant et effrayant en fait un des méchants les plus excitants vus sur un écran récemment. Alors Le Serpent aux mille coupures a la bonne idée aussi de fuir la capitale, c'est-à-dire que c'est bien, ça se passe pas à Paris mais en province, et d'inscrire son récit au cœur d'une topographie ayant inspiré jadis quelques metteurs en scène de renom. Alors comment ne pas penser à Canicule d'Yves Boisset, hein, ou plus récemment à Total Western d'Éric Rochant. La démarche est la même, c'est-à-dire transposer tous les codes du film noir américain au cœur d'un environnement franchouillard, avec ses PMU, son racisme ordinaire et ses bons mots à la Audiard. Alors, mais cet aspect demeure aussi ce qu'il y a de moins intéressant dans le film de Vallette. Hein. Les dialogues et le jeu outré des seconds rôles s'engouffrent dans des clichés parfois désolants, avec cette équation simpliste, pilier de comptoir, plus chasseur, égale raciste. C'est un peu ça. Ouais. Alors ce n'est pas la meilleure facette d'un film qui sombre alors dans les pires travers des téléfilms régionalistes. Alors en revanche, Vallette utilise à merveille son décor, hein, et transforme son petit polar d'apparence classique en un néo-western furieux et baroque, remarquablement photographié et monté. La tension est bien présente, le récit est rondement mené et les éclats de violence versent dans un excès gore assez jouissif, même si c'est un peu incongru parfois. Notamment une fille qui est découpée en plusieurs morceaux, qui est installée comme une œuvre d'art. C'est assez marrant.
Alors, oui.
Le film nous entraîne en fin de parcours vers un ultime gunfight dans la lignée des films de Peckinpah. Mais l'opéra de violence tant attendu paraît bien timoré, comme si Valette n'osait pas franchir une ligne rouge, la ligne rouge du bon goût. Dommage, car elle tenait la matière à un grand film d'action française, le meilleur vu depuis des lustres. Cet épilogue décevant, mais loin d'être honteux, hein, atténue la portée de cet honorable polar, champêtre, je dirais, ou régional. Une sorte de relecture moderne d'un excellent roman noir qui s'appelle Fantasia chez les Poux. Chez les Ploucs de Chester Williams.
Non, pas chez les Poufs.
Chez les Poufs.
Eh bien, nous passons de la province française à la province canadienne.
Tout à
avec
fait.
Toi, Marine.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on passe aux mauvaises herbes de Louis Bélanger. Jacques, un comédien dont la carrière s'épuise, a un sérieux problème de jeu. Du coup, il a contracté une importante dette auprès d'un mafieux de Montréal. Et de fil en aiguille, il se retrouve à devoir fuir la ville. Perdu dans la montagne, il trouve refuge chez Simon, un mystérieux ermite aux faux airs de Jean-Pierre Marielle, dont au passage, l'accent québécois doublé d'un accent campagnard rend les sous-titres indispensables. Mais Simon cache un secret, il cultive dans sa ferme une énorme quantité de marijuana. Et très vite, Jacques va être pris en otage et contraint de l'aider.
Port de Montréal à moins 20, en habit d'été, tu sais pas où tu t'en vas.
Comme je te dis, j'ai du mal à m'expliquer avec le chauffeur. Là.
Qu'est-ce que tu viens faire par ici?
Je représente une troupe de théâtre de Montréal et on essaie d'organiser une tournée dans la région. Une pièce, une bonne pièce.
Ça fait longtemps qu'on a vu du théâtre par ici. Pas sûr que le marché est bien bon pour ça dans le coin. Mais...
Ah non?
Alors, la situation de base est assez cocasse, hein, puisque le personnage principal se retrouve ainsi à cultiver des plantes de cannabis alors qu'il est encore habillé en bourgeois gentilhomme. Malheureusement, le reste ne sera pas tout à fait au même niveau. Hein. Cette petite comédie sympathique joue la carte du rat des villes et du rat des champs. Le comédien citadin rencontre le bûcheron taciturne et, comme on peut le supposer d'entrée, ces deux personnes que tout oppose et qui seront contraintes de cohabiter vont finalement apprendre à s'aimer, ce qui est un ressort de comédie ultra classique, mais efficace. Ici, le comique de situation est peut-être encore mieux exploité, mais le scénariste a préféré introduire au milieu de ce duo un nouveau personnage, puisqu'arrive dans la ferme Nancy, une jeune femme en pleine rupture familiale, venue pour relever les compteurs d'électricité, qui va elle aussi se faire retenir de force et se retrouver jardinière. Le duo se transforme ainsi en trio, et la lutte des classes évolue en conflit de générations. Agréable, bien filmé, hein, les mauvaises herbes a malheureusement le défaut de beaucoup de comédies. Au lieu de rester dans le caustique, elle tombe dans le travers du sentimentalisme. Ainsi, ces trois âmes seules, ces mauvaises herbes en quelque sorte que la société a mis au rebut, vont finalement apprendre de leurs différences et se créer la famille qu'ils n'ont pas eue. C'est un peu facile, d'autant que ce n'est pas non plus hilarant, hein, ça manque pas mal de rythme. Les mauvaises herbes est plus un drame léger qu'une comédie. Mais bon, ça se laisse regarder sans déplaisir. Et alors moi, je vous parie que ça va être adapté aux États-Unis. Mmh. Ça, j'en mets ma main à couper. Voilà.
Ça se passera au Nouveau-Mexique et ainsi de suite. Voilà.
Exactement.
Merci Marine. On va maintenant pouvoir faire un blind test. Mais avant, tu vas nous parler de Corporate, Manu.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors bienvenue dans l'univers sournois et impitoyable de l'entreprise, un milieu longtemps déserté par le cinéma français mais qui connaît un regain depuis on va dire une bonne quinzaine d'années avec des films aussi divers et réussis que je ne les citerai pas puisqu'il y a un blind test après, puisque je les ai un peu tous cités en théorie. Alors Corporate appartient à cette vague, hein, tout en tentant de s'éloigner du socle purement social et théorique afin de se frayer un chemin du côté des films de Ciné Lumette, réalisateur mythique, je le rappelle, du pamphlet anti-peine de mort 12 hommes en colère mais aussi de Serpico. Alors Nicolas Ciol signe un premier long métrage qui ambitionne d'articuler divertissement et réflexion dans la grande lignée du cinéma hollywoodien engagé. Le sujet d'actualité est fort en soi. Émilie Tesson-Hansen est une brillante responsable des ressources humaines, une killeuse comme on l'appelle. Suite à un suicide d'un des employés dans son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se retrouve directement visée par l'inspection du travail. Au lieu de la soutenir, sa hiérarchie commence à prendre des distances et préparer des mesures afin de se protéger. Sentant une menace réelle, Émilie décide de ne pas se laisser faire au prix d'une prise de conscience sur la nature peu reluisante de son travail, ou plutôt sur les raisons inavouables de son embauche par un directeur manipulateur et pervers. Alors, thriller social surfant sur la vague des suicides en entreprise, Corporate est un film bien mené, hein, qui finalement tombe à pic en pleine élection. La description des méthodes de management fait froid dans le dos et le regard que porte le réalisateur sur le monde du travail est cinglant. Enfin, sur le monde du travail, plutôt sur les entreprises où tout est basé sur le fric et où les rapports humains sont viciés dès le départ, un univers auquel on ne souhaiterait pas appartenir, surtout si on en est très éloigné. Le film est efficace, nerveux, parfois manichéen, mais assez intelligent pour rester crédible de bout en bout. Alors Céline Sallette, en DRH, prenant conscience du sale boulot qu'elle effectue, est magnifique. Elle porte à bout de bras un film démonstratif, réalisé sans génie et plutôt bien écrit, même si le revirement idéologique de l'héroïne, qui fait un peu son mea culpa, paraît artificiel et assez consensuel au final. Mais c'est un peu, on va dire, la loi du genre. Seul bémol, Lambert Wilson fait un peu son show. C'est un très bon acteur, je trouve, mais on ne voit pas un chef d'entreprise cynique, mais un acteur talentueux qui fait son numéro de cabot. Et c'est un peu gênant. Je pense que le film aurait gagné en authenticité à prendre un visage moins connu. Alors, en l'état, Corporate est un bon film à thèse, très réussi dans sa première partie, qui est très angoissante, et beaucoup plus convenu dans une seconde partie, sorte de rédemption d'un bourreau qui s'avère aussi être une victime broyée par un système qu'elle va combattre et en sortir, donc la tête haute. Enfin, c'est très classique, ce type de scénario.
Ça fait sûrement du bien de voir Céline Sallette dans un rôle
elle pareil. Et puis elle est vraiment formidable. Mmh. Le film ressemble un petit peu, on va dire, à des polars américains où un flic se retrouve accusé de corruption et c'est tout un système qui est en œuvre. Il n'est pas le seul coupable, mais c'est la victime. Voilà, c'est un peu ça. Ça ressemble pas mal à ce type de film.
Alors, ça nous donne l'occasion de jouer un blind test sonore, comme il y en a beaucoup dans Cinérama. L'objectif est bien 5 extraits et on découvre le titre donc d'un film français, je le précise, qui se déroule alors au sein de l'entreprise ou pas loin.
Sandra, il y en a quand même 5 sur 10 qui veulent que tu restes.
Il y en a 2. Les autres, c'est parce que je les ai forcés à avoir pitié. Et même si j'étais reprise, t'imagines ceux que j'ai empêchés d'avoir leur prime? Comment est-ce qu'ils vont me regarder? Comment est-ce que je vais faire avec eux toute la journée? Comment je vais faire dans le même atelier, à la même machine, au réfectoire? J'irai même pas lundi matin. Qui décide sans moi?
Alors, on a reconnu Marion Cotillard.
Ouais, 4 jours, 5 nuits, 2 jours, 1 nuit, je sais plus. C'était les Frères d'Ardenne.
Oui, tout à fait. Alors là, on ne voit pas forcément l'entreprise, mais on voit la relation au travail, hein, puisqu'elle va voir tous ses collègues pour essayer de ne pas se faire virer. Deuxième extrait.
T'es à combien? La nana, depuis tout à l'heure, elle fait la gueule. Tu sais pourquoi? Elle fait la gueule parce que depuis le début, tu fais comme si elle n'était pas là. Et t'es con parce que c'est elle qui va faire le chèque. Ou pas, d'ailleurs. Alors tu y retournes et tu lui demandes pourquoi elle sourit pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Discute, passe du temps. T'es pas aux pièces.
Alors cette fois-ci, on a reconnu Gilbert Melki.
Il n'est pas facile celui-là, c'était Vendeur avec Pio Marmaille.
Eh oui, aussi. Description du milieu des vendeurs. Alors là, en l'occurrence, de cuisine et puis un homme, Gilbert Melki, en super vendeur qui a tout sacrifié à sa carrière. Un film, alors là, je pense que c'est facile, toujours un film français.
Avez-vous demandé à monsieur ce qui le motive à venir travailler aux grandes galeries?
Non, mais je comptais le faire.
Ce qui me motive, c'est le prix de mon loyer.
L'entreprise, qu'est-ce que ça éveille en vous?
Surtout que ça va me réveiller à 7 heures tous les matins, mais bon...
On n'a rien sans rien. C'est ça, l'entreprise. On va vous laisser travailler. Je crois que nous aurons des choses à dire à Madame Dujardin. Bonne continuation.
Merci.
Alors Manu, tu l'as sur le bout de la langue, t'as trouvé la date, Clapiche, 92, ouais. De Clapiche, effectivement. Ça s'appelle Rien du tout.
Rien du tout, oui, effectivement.
Voilà. La vie d'un grand magasin parisien, les grandes galeries, dirigées donc par Fabrice Lucchini. Quatrième extrait.
Il est l'heure, on me fait signe au badge de ne plus attendre les derniers retardataires. Je vois que la plupart d'entre vous a su trouver son partenaire, les échanges peuvent commencer. Premier objectif de l'épreuve, pour chaque cadre, faire admettre à son coach l'augmentation de la capacité de production. L'épreuve est notée sur 20 points.
D'ici 6 mois, 10 mois ou plus, je vends mes parts à Tetralab. Adieu Muller et ça, je vends tout. Si je licencie une trentaine de personnes avant rachat, Tetralab trouvera que la maison est saine, ils me la paieront plus cher, et en plus ils me garderont.
Et vous nous proposez à l'instant des négociations et vous vous foutez de nous?
Juste une trentaine de personnes, je joue franc jeu avec vous.
10%? C'est monstrueux.
C'est à vous que je m'adresse, Margara.
Bergerin.
Je veux que vous démissionniez de votre poste de délégué.
Alors là, on entend Pascal Grégory, qui finalement
encore
est parfois dans... Eh oui, encore lui. Ça fait deux fois qu'il est cité dans cette émission. Et il discute avec Denis Podalydès. Alors c'est...
De bon matin?
Non, c'est rien de personnel de Mathias Gokalp. où là, c'est chaque cadre d'une entreprise qui doit sauver sa tête lors d'une réception organisée par donc, l'entreprise. Mais cette réception se transforme en exercice de coaching. Et donc là, c'est chacun pour soi. Et voilà. Bon, c'est un film de 2009 qui avait un regard assez particulier sur le monde, cette fois-ci, des cadres. Dernier extrait, ça va être, à mon avis, plus facile.
Alors, qu'est-ce qu'il y a ?
T'es venu surveiller mon travail ?
D'abord, j'aimerais que tu changes de ton. Tu me dis ce qui va pas ?
Je veux que tu me changes de mission.
Mais c'est pas un self, mon petit Philippe. Je t'ai choisi, c'est pas pour me déjuger en cours de route.
Je veux pas être un coupeur de tête. Tu te rends pas compte, c'est l'enfer de les voir défiler. Tous ceux qui remplissent pas les critères. Qui ont une vie pas possible, qui arrivent pas à s'adapter. Parce qu'ils le sentent, ils me voient venir.
Mais qu'est-ce que tu crois, on est tous passés par là ? Il faut que tu rationalises. Une entreprise tourne avec X employés, pas X plus 1. Si tu t'arrêtes sur chaque cas, tu oublies l'ensemble qui est de rendre cette boîte efficace, compétitive.
Mais il n'y aurait pas de rachat, il n'y aurait pas de plan social.
Bah, t'es très fort, t'as une sacrée maîtrise du marché. Moi, je te dis que c'est le contraire. On serait pas là, ce genre de boîte serait liquidée en moins de 2. Mais alors là, c'est tout le monde dehors.
Conflit moral, hein, comment concilier d'ailleurs moral et libéralisme ? C'est le monde de l'audit et de la rentabilité. On a entendu Laurent Lucas et Jérémy Régnier, c'est...
Violence des échanges en milieu tempéré.
Oui, de Jean-Marc Moutou.
Voilà, Jean-Marc
film
Moutou.
Film de 2004, assez Poutou. Définitif
Poutou, ouais.
sur la question. Et je crois que je le mets à chaque fois dans les blind tests quand ça concerne le monde de l'entreprise, il me semble. J'ai cette habitude. Ainsi s'achève ce blind test sonore. On en retrouvera d'autres au fil des émissions.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Et nous allons parler maintenant de Young Lady de William Oldroyd, premier film, voilà un premier film remarquable, hein, de Young Lady qui a pour titre original en fait Lady Macbeth, mais qui est adapté d'un roman russe de Nikolai Leskov publié en 1865, Lady Macbeth du district de Minsk, je crois. L'histoire a déjà été adaptée par Shostakovich dans les années 30, ce qui a fortement déplu à Staline. Les thèmes abordés, la soumission d'une femme dans une société bourgeoise et la passion irrépressible en guise de réponse à l'enfermement. Dans la pièce de Shakespeare, Lady Macbeth sombre dans la folie, eh bien ici c'est un peu différent. Alors ce qui frappe peut-être dans ce premier film, c'est que William Oldroyd, qui vient du théâtre, a adapté le roman russe à l'Angleterre victorienne, une période qui a souvent la faveur du cinéma anglais. Toutefois, le traitement est bien différent des fastes de la capitale, puisqu'on se retrouve dans un coin reculé de l'Angleterre, on ne sait où, à la campagne. La première séquence est troublante, on assiste à une cérémonie, c'est un mariage, celui de Catherine qui a l'air aussi surprise que nous de se retrouver là. Elle est mariée à un lord qui a deux fois son âge, mariage arrangé, sans passion, sans amour et sans consommation non plus. Alors non seulement Catherine est délaissée, mais en plus quand son mari s'en va régler ses affaires, eh bien il demande à sa jeune épouse de ne pas quitter l'immense manoir. Alors quand ce n'est pas son mari, c'est son beau-père, peut-être encore plus ignoble, qui lui intime le même ordre donc de rester bien en place. Catherine passe ses journées à ne rien faire, hein, nul tableau, nul livre, nulle distraction dans sa maison et l'interdiction de sortir, voilà, qui ressemble quand même à l'enfermement. Mais ça ne durera qu'un temps, la jeune fille qui ne reçoit aucune visite et qui n'a pour seule compagnie qu'une servante va s'offrir des virées dans la campagne, des expéditions sur le domaine et va tomber sur le palefrenier qui n'avait rien demandé à personne. Alors c'est le début d'une passion, un air de l'amant de Lady Chatterley. Alors l'idée est bien de remplacer son mari par son amant, mais ici, quiconque se met en travers en subit les conséquences. La jeune fille soumise devient immorale, la victime devient bourreau et rien ne semble l'arrêter. La contrainte et l'enfermement ont conduit cette jeune fille à se nourrir davantage de passion et à perdre la mesure des choses. Il y a une forme d'empathie, hein, jusqu'à ce que cette jeune femme finisse par perdre définitivement toute notion morale. La jeune fille est de tous les plans, à l'enfermement auquel on la soumet dans sa demeure, accompagnée par le bruit du tic-tac et par des plans fixes qui se multiplient comme une forme de monotonie, eh bien, répond ces grandes balades dans la lande qui mènent jusqu'à la mer, un contraste saisissant qui nous prépare au bouleversement que le personnage va subir. Alors, autre contraste, l'ordre qui fait place à l'animalité, il y a ce chat qui est témoin des outrages, donc lui c'est un animal, mais aussi cette servante qui est suspendue dans un sac, telle une truie, disent les hommes qui la forcent, donc ils l'ont mis dans un sac. Et puis cette même servante qu'on force à marcher à quatre pattes à un moment, dans une scène assez dégradante. Il y a aussi bien Catherine, le personnage principal, qui lape le sang sur le corps de son amant. Voilà, il y a vraiment des touches comme ça d'animalité dans cette mise en scène. Le renversement de la cruauté est le nœud du film et la fin est proprement glaçante. Alors si ce n'était les balades dans la campagne, on peut parler de huis clos, tant la maison constitue un lieu privilégié, sombre quand on trouve mari et beau-père, lumineux quand la jeune fille s'y livre à la passion. Voilà, c'est un film plutôt remarquable de Young Lady, et ce qui est assez étonnant alors, c'est que le réalisateur vient du théâtre, et il y a des personnages, notamment la servante et même le palefrenier, enfin qui... La servante est noire, mais on ne peut pas la prendre comme un personnage noir, c'est-à-dire que c'est un personnage de servante. Voilà. Enfin, le traitement, par exemple, à l'époque victorienne, enfin, du racisme ou des classes, n'est pas, absolument pas traité. Voilà, il faut la prendre comme un personnage. Et c'est plutôt finalement intéressant, puisqu'on s'attache davantage à Catherine. Ce personnage sanguinaire de Young Lady sort le 12 avril, film de William Holdroyd.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Et on poursuit donc avec le documentaire L'Opéra. Bienvenue dans les coulisses de l'Opéra Bastille. Jean-Stéphane Bron y a posé sa caméra durant un an et demi. Un travail de longue haleine donc qui aura permis au réalisateur de constituer son casting en quelque sorte, au feeling, au fur et à mesure, à travers des portraits d'hommes et de femmes, pour certains assez truculents ou inversement assez touchants, voire les deux en même temps. Il a surtout cherché, de son propre aveu, à décrire une société.
Bienvenue dans cette belle maison qu'est l'Opéra de Paris. Voilà, on va passer une saison ensemble.
On est à l'Opéra, justement. Alors, l'Opéra, c'est un tout.
On a les contraintes qui se rapprochent là du côté du syndicat, on a les contraintes qui se rapprochent là du côté de l'État. Et avec ça, il faut faire plus de spectacles, des spectacles plus beaux.
Et c'est réussi, la caméra très discrète s'est véritablement insinuée partout pour dépeindre les rouages bien huilés de cette immense fabrique de rêves. La mise en scène est maligne, le résultat est parfois très drôle, car dans cette grande entreprise de la perfection qu'est l'opéra, le moindre couac devient éminemment comique. L'obsession de Jean-Stéphane Bron était de filmer le geste juste, et si sa caméra sublime la danse et le chant, elle montre également ce que l'on ne voit jamais, comme une ballerine qui s'écroule épuisée en coulisses juste après avoir effectué son solo, ou les doutes d'un chanteur lyrique une fois sorti de scène. L'approche documentaire est très rafraîchissante et c'est aussi dû aux divers personnages que l'on a choisi de suivre, comme par exemple un jeune ténor russe fraîchement débarqué des montagnes de l'Oural qui découvre émerveillé l'opéra et en même temps l'Europe. Pendant un an et demi, l'actualité de l'opéra a également été émaillée de divers drames, telles que la tuerie du Bataclan ou, toute proportion gardée, hein, la démission du chorégraphe Benjamin Millepied. Et c'est justement là que l'on aboutit à l'une des failles du documentaire. Son approche un peu élitiste. Il n'y a jamais d'interview face caméra. Les gens sont filmés sans être présentés, comme si on devait déjà les connaître. Par exemple, Benjamin Millepied, même si on connaît tous son nom, moi, personnellement, son visage, je ne le connais pas. J'ai mis un quart d'heure avant de comprendre que c'était lui. Ça pose un peu problème. Et si de prime abord, eh bien, on est séduit par cette caméra si discrète au plus près des gens, on finit quand même également par se dire qu'elle n'est pas très critique. Par exemple, quand il y a un préavis de grève au sein de l'opéra, tout est filmé de façon à nous faire croire que ça s'arrange très facilement. Et puis surtout, on ne donne la parole qu'aux dirigeants et jamais aux employés. Alors on peut peut-être aussi s'imaginer que les employés n'ont pas voulu être filmés. Mais bon, on aurait pu aussi le faire en les floutant. Bref. Et puis, à trop vouloir montrer l'opéra comme une famille, on oublie aussi d'aborder les vrais problèmes. Cette tradition française de l'opéra, qui était un divertissement populaire autrefois, est devenue extrêmement élitiste, puisque, ironie de la chose, la plupart des gens qui travaillent au sein de l'Opéra Bastille sont bien incapables de se payer une place pour assister à une représentation. On parle bien un moment dans le documentaire du problème des tarifs, qui sont exorbitants, hein, puisque les places quand même les moins chères sont à plus de 200 euros par personne. Mais ce problème est survolé, et là encore, on ne creuse pas le paradoxe. L'ensemble aboutit à un film plaisant, réussi, mais faussement audacieux, car en réalité très rangé. On dirait même parfois presque que le documentaire en fait est une commande déguisée, tant il est empreint comme ça d'une espèce d'angélisme. C'est juste voilà, le seul défaut pour moi du film, qui est quand même globalement réussi. Mmh.
Oui, ça rend curieux. Est-ce que ça rend curieux, par exemple, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'opéra ?
Ah, tout à fait, oui. Mais ça n'en montre que les bons côtés.
Ouais. Puis à 200 euros, mais bon, c'est moins cher en province.
Minimum 200 euros, minimum.
Parce que là, on parle de l'Opéra Bastille, effectivement, mais c'est quand même moins cher en province, même si, de toute façon, l'opéra reste le spectacle vivant le plus cher qu'on trouve sur notre territoire.
Mais il est quand même question à un moment de le baisser la place à 150 euros. C'est donné.
Cinérama se poursuit avec le dernier film de cette émission, et c'est un film...
français.
Ouais, voilà.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Donc, prix de cours hein, d'Emmanuel Cuau. Alors, tourné avant Victoria, hein, prix de cours bénéficie de la consécration méritée hein, de la personnalité, entre autres, de Virginie Efira, surtout de ses qualités de comédienne. Bon, ce dont je n'ai jamais douté, même si elle avait quand même du mal à sortir de ses rôles calibrés de quadra bourgeoise dans des comédies romantiques. Alors, étrangement, hein, malgré ces deux bons films, elle reste malgré tout cantonnée dans ce type de rôle, même si elle bénéficie là de personnages mieux écrits, laissant éclater un talent réel. Alors, dans Prix de cour, de la très rare Emmanuel Cuau, qui n'avait rien tourné depuis 2007, le formidable Très bien, merci, Efira incarne Nathalie, une joaillière hein, qui s'installe à Paris avec ses deux enfants, un ado mal dans sa peau, et son jeune frère. Alors, elle est veuve et elle vient du Canada. Il n'y a pas de corrélation entre les deux, mais c'est... Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Hein. Sur place, à la dernière minute, les bijoutiers pour lesquels elle doit travailler lui annoncent que le poste n'est plus pour elle. L'effondrement n'est pas loin. Elle décide alors de le cacher à ses enfants pour les protéger. Alors à ce moment, on se demande bien vers quelle direction le film va s'orienter. Alors d'autant qu'en parallèle, la cinéaste filme la difficile intégration du fils aîné au lycée. Alors c'est bien dans cette indécision que réside le meilleur du film, qui prend son temps pour organiser son récit. Alors deux voies sont alors possibles, entre le drame social d'une mère qui accepte pour survivre un travail alimentaire dans un bar et la rencontre de son fils avec une petite frappe qui va le mener vers la délinquance. Alors Emmanuel Cuau choisit, alors je spoil un peu, hein, le film étant sorti depuis un petit moment, hein, choisit la dernière option hein, et s'oriente naturellement du côté du thriller. L'adolescent va être attiré par une figure, on va dire un peu caricaturale du gangster, substitut possible de son père décédé, mais la piste est un peu tiré par les cheveux. Alors il y a quelque chose de beau et séduisant de voir ce gamin de 15 ans, fragile, à la recherche d'une identité, réaliser ses petits trafics en roller. Alors jusqu'au jour où fatalement il va se retrouver le dos au mur ou pris de court, probablement piégé par le malfrat local.
Il doit 75 000 euros.
Il peut pas les payer.
Il va falloir trouver un moyen. Parce que mes amis peuvent se montrer violents s'il le faut.
Je vais porter plainte.
Tu es sûr que tu as tout raconté à ta mère? Parce que c'est pas un ange, votre fils. Hein? Recel, vol à l'arraché, trafic de drogue, cambriolage.
Oui, ben maintenant c'est fini. Hein? Il arrête ses conneries maintenant. Et vous l'oubliez, d'accord? Vous l'oubliez.
On dirait que tu as honte. Mais tu n'avais pas honte quand tu venais de me demander de faire des coups qui rapportaient plus. Il voulait toujours plus. Tu lui as parlé de tes virées dans les appartements avec Léo? D'un vol avec violence? Les flics cherchent encore les coupables. Tu lui as parlé de ça? Elle est au courant de ça?
Je sais pas rien.
C'est pas ce que raconte Léo. En tout cas, c'est pas ce qu'il va dire aux flics. Et tu sais très bien qu'il peut te charger.
Vous avez pas le droit de faire ça.
Tout ce que je veux, c'est récupérer cet argent.
Alors, pris de court, hein, trouve un vrai souffle, tient la route pendant une bonne heure, mais se délite petit à petit. Alors, trop de clichés, de scènes déjà vues, parasitent un peu le propos. Hein. Le trafiquant incarné par Gilbert Mekhi, lui, il est très bon, hein, mais c'est plutôt le personnage qui est décevant, semble tout droit sorti d'une série B de bas étage. Et c'est bien dommage, car le film perd en crédibilité, ce qui ne gagne pas forcément en efficacité. L'aspect polar s'engouffre alors dans des conventions décevantes, ne parvenant pas malgré tout à ne pas entacher la sensibilité d'un film qui trouve quand même le ton juste dans les rapports entre une mère qui tente de se reconstruire et un fils perdu. Alors si le film émeut au final, hein, c'est grâce à la pudeur et à la sécheresse d'une mise en scène qui ne s'embarrasse d'aucune fioriture. Cuau va souvent à l'essentiel, hein, c'est très bien filmer les visages, les corps en mouvement, n'encombre pas son récit de plans superflus ou d'une musique inutile. Là, il y a très très peu de musique. Hein, au point de faire penser à du Cassavetes en mode mineur. Hein, comment d'ailleurs ne pas songer au magnifique Gloria, d'autant que Virginie Efira n'a rien à envier à Gina Roland. Sa composition de femme seule déterminée à protéger ses enfants d'une crapule intégrale est assez bouleversante. Alors en conclusion, même si le scénario se perd dans d'invraisemblables conjectures, notamment lors d'un braquage final absolument pas crédible, c'est un braquage de bijouterie, on ne croit pas une seconde, le dernier plan montrant cette famille réunie s'envolant pour une autre vie demeure l'un des instants les plus émouvants vus au cinéma ces derniers temps. Alors tant pis pour les défauts, hein, la sincérité l'emporte, hein, pris de court malgré ses imperfections d'écriture, demeure, moi, je trouve que c'est un film attachant. Pas complètement réussi, un peu bancal, mais au final assez émouvant.
Bon, ça veut dire que tous les films dont on a parlé aujourd'hui, eh bien, sont des films qu'on conseille.
Bah oui, en fait.
Parce qu'on n'a
bah
pas
oui.
parlé de Gangster.
Quelle bonne pêche.
Gangsterman.
Gangsterdame.
Gangsterdame.
Gangsterdame. Non. Effectivement, un film qui ne marche pas très bien d'ailleurs dans les salles.
C'est étonnant.
Pour le prix qu'il a coûté, hein, j'entends.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Tu vas pas contrôler qui est, qui est, qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Après le blind test sonore de cette émission, la semaine prochaine, nous retrouverons une autre habitude de l'émission, c'est l'interview, celle d'Emmanuel Courcol, réalisateur de Cessez le feu, film avec Romain Duris et Céline Salette.
À la semaine prochaine.